On a pu parler à juste titre de l'impérialisme vénitien, et Venise a étendu par les tentacules de son commerce son emprise, nous le savons bien, jusqu'au loin, mais Venise aussi a été jalouse de son autorité dans le nord de l'Italie, a essayé de l'étendre au maximum du possible. Elle n'a renoncé que devant les ligues qui se sont constituées contre sa croissance. Et pourtant, aux portes de Venise, dans l'île qui fait suite à celle du cimetière, il y a Murano qui est restée toujours indépendante. C'est que Venise tenait à cette île de Murano. D'abord, à partir du XIIIe siècle, tous les verriers de Venise ont dû venir émigrer à Murano, car le danger d'incendie était redoutable pour la ville. Si bien qu'il s'est constitué aux portes de Venise, une sorte de petite république des verriers, calquée sur le modèle vénitien. Il y a là une prodigieuse continuité. Et c'est ici, dans ce lazaret du verre, si on peut dire, où étaient transportés tous les verriers et où ils venaient former une sorte de petite république du verre, c'est ici que s'est développée cette étourdissante technique. La salle du musée de Murano où nous sommes est bien émouvante, car les objets sont tels dans les mêmes vitrines que nous les avons connus il y a peut-être déjà plus de 30 ans, et on retrouve le même enchantement des transparences de ces plats, de ces verres, de ces vases qui sont placés dans de vieilles vitrines du XIXe siècle et face aux fenêtres. L'art de Murano a pourtant évolué beaucoup. Au milieu du Xe siècle, il est bien plus ancien et probablement qu'il vient de l'influence des Sarrasins de Syrie, mais au milieu du Xe siècle, on voit apparaître une verrerie de couleurs. Et c'est toujours la couleur vénitienne, c'est le rubis, le bleu, l'émeraude. Et puis, à la fin du XVe, c'est le cristal, l'effet de cristal qui est découvert, avec toutes les variations qu'on peut donner au verre, l'opaline, la tissuole, la couleur laiteuse du verre. Puis la pseudo-porcelaine commence déjà à ce moment, elle se développera beaucoup au XVIIIe siècle. Et puis les filigranes légers, et même ces mouvements que les reliefs donnent au verre. Mais les formes les plus extraordinaires apparaîtront au XVIe, et la virtuosité des verriers de Murano est quelque chose d'incomparable.
Je suis assis au fond d'une boutique obscure de la Calle Larga San Marco. Je choisis un de ces clairs colliers dont le verre s'azure et j'écoute en mes doigts tinter son cliquetis. Tous les murs sont couverts du plafond jusqu'aux plinthes de longs fils suspendus qui balancent leurs grains dont les vives rondeurs sous un émail sont peintes de toutes les couleurs du soir et du matin. La boutique du vieux Berengo est étroite, étroite la calle et pauvre le marchand, mais tout y lui scintille, étincelle et miroite, et les perles de verre y gazouillent leur chant. Car lorsque par hasard du coude ou de la hanche on touche ces longs fils lumineux et légers, mystérieusement l'un vers l'autre se penche, et l'air vibre longtemps de leurs sons échangés. C'est là que j'ai choisi pour vous, un jour d'automne, ce collier sans fermoir qui vous allait si bien. Vous rappellerez-vous celui qui vous le donne, vous rappellerez-vous le ciel vénitien. Vous rappellerez-vous, disais-je. Le temps passe, et rond de son doigt dur le fil le mieux lié. Le collier se dénoue et la perle se casse. Et si je me souviens, vous avez oublié. Et sans doute aujourd'hui, en ce soir solitaire, mélancoliquement je pense, seul de nous, à la boutique obscure, à ces colliers de verre, à l'étroite Calle Larga. Je pense à vous. Henri de Régnier.
ce bruit qui nous parvient et qui monte, ce ronflement que nous entendons, c'est la fornace, c'est la forge où le verre est fondu. Nous sommes maintenant chez deux des descendants des plus illustres verriers de Venise, deux cousins d'ailleurs éloignés, M. Barovière et M. Tozzo. Et nous entrons dans cette forge qui peut-être évoquerait, et Marcel Brion...
Oui, dont le bruit est exactement la sonorité que Wagner a retrouvée dans la forge de Siegfried. Et l'on pourrait penser que cela a fait penser Wagner déjà à ce personnage. Mais ici, ce n'est pas le bronze, arme meurtrière que l'on forge, car c'était d'épée de bronze que servait Siegfried et non pas de fer, mais à la matière translucide et divine et céleste par excellence qu'est le verre.
Mais nous avons la chance d'avoir M. Barovière et M. Tozzo à côté de nous et ils vont pouvoir nous donner des informations sur à la fois l'histoire et la technique du verre. Je crois que vos familles pratiquent le verre depuis très longtemps. À quelle époque est-ce que les Barovières et les Tozzo ont commencé à travailler le verre?
Eh bien, les Barovières commencent depuis 1300 et les Tozzo viennent très peu après.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs générations, plusieurs centaines d'années que nous travaillons ensemble, que nous sommes ici toujours, de père en fils.
Vous avez encore des ouvriers dont la famille remonterait aussi loin?
Ah oui, évidemment, parce que on peut dire pratiquement que tout le monde qui travaille à Murano, c'est toujours plus ou moins des gens qui descendent des anciens maîtres verriers. Et alors, ça dure encore comme tradition.
Est-ce qu'on ne pourrait pas demander quelques mots à un de vos ouvriers qui descendrait d'une vieille famille?
Oui,
Murano?
Je ne sais pas s'il connaît les Français, mais en tout cas, il vous donnera.
Bien sûr. Les grands ouvriers verriers de Murano sont d'ailleurs des sortes d'aristocrates et leurs patrons étaient considérés tellement comme des aristocrates que, par une unique exception, les filles des grands patriciens de Venise et même des doges pouvaient les épouser sans déchoir. Ils étaient en somme l'équivalent des gentilshommes vénitiens, du patriciat vénitien, mais sans emporter le titre, puisque Murano avait son indépendance. Et c'est justement un des ouvriers qui, depuis des siècles, ont collaboré avec ce patronat seigneurial. Rappelons-nous qu'en France aussi, les maîtres verriers avaient des privilèges et qu'on pouvait être maître verrier sans déchoir de la noblesse. Eh bien, nous allons demander à un de ces ouvriers dont la famille a été associée si longtemps à celle des Tozzo et des Barovières, nous allons lui demander de nous dire un peu quelques mots sur Murano.
Mio nonno, ad esempio, lavorava nelle conterie. Mio padre pure era un maestro vetrario. E io, per logica, come succede spesso nelle famiglie, si segue l'arte del padre, del nonno. Quindi sai, perché sei un po' anche affezionati. Quindi ora faccio il maestro vetrario nella Baroviere e mi trovo molto bene, diciamo così. Come sicuro abbiamo delle grandi soddisfazioni, però è un lavoro molto molto pesante, quindi che a distanza logora. E poi risiedo a Murano in quanto che è un'isola, non so che.
È un lavoro di artista.
Beh, vogliamo chiamare artista, non so, in modo. Ogni mestiere ha la sua parte artistica, diciamo così, quindi sa. Un lavoro che impegna abbastanza a fondo, capisci? E dà parecchie soddisfazioni.
Grazie tante. E Monsieur Barovière va nous évoquer à la fois la technique et nous dire quelques mots sur l'histoire de cette technique.
Eh bien, la technique maintenant est restée plus ou moins comme auparavant, c'est-à-dire quand il y avait les Romains ou bien il y avait à Venise les premiers verriers qui sont venus ici. Nous avons des outils tout à fait très simples, la canne à souffler, le chissoir, deux autres petits outils. Il y a une équipe qui travaille ensemble, cette équipe s'appelle Piazza, est formée par les maîtres verriers pour son adjudant et des autres jeunes hommes qui travaillent ensemble. Cette unité est une véritable unité productrice qui va faire les pièces de commencement jusqu'à la fin. Bien entendu, Chaque maître verrier a son esprit, son caractère, son désir. Alors, il y a une qui est fort, il ferait des pièces très, très importantes. Une autre aime les choses anciennes, alors on lui donnera à faire toujours des pièces, des réplicas de l'ancienne. Une autre, elle aime toujours des nouveautés, alors on lui confiera un travail tout à fait moderne, tout à fait nouveau de temps en temps.
Cet art du verre est à la fois un art ancestral et c'est un art moderne. Je me souviens que M. Tozzo me disait un jour, « Eh bien, choisissez dans n'importe quel tableau de Véronèse un vase qui vous plaît, je vous le ferai. » Vous vous souvenez m'avoir proposé cela. Et il y a évidemment, non pas une, ce ne sont pas des copies, entendons-nous bien, ce sont des créations qui sont faites par les mêmes moyens que jadis, par des mains qui familialement sont les mêmes d'ailleurs, ce sont des répliques du passé. Mais vous avez aussi toute une activité moderne et des grands travaux. Quel est donc cet énorme plafond que j'ai vu à New York?
Eh bien, nous avons fait plusieurs plafonds. Je pense que les plafonds que vous avez vus à New York, c'est les plafonds en verre que nous avons fait pour les sièges à l'Italia. Nous avons fait dernièrement un lustre de 16 mètres de hauteur pour le Stock Exchange de Montréal. Nous avons fait des plafonds luminés pour différents hôtels, par exemple Hilton à Rome. Nous avons fait des copies anciennes pour la grande salle à manger de l'hôtel Ritz à Paris. Nous avons fait les plafonds à l'Opéra à Genève.
Vous parliez de copies anciennes. Ce n'est pas vous qui rappellerez qu'il vous est arrivé parfois de retrouver dans des foires d'antiquaires des œuvres que vous aviez restaurées et où les parties modernes étaient absolument indiscernables des parties anciennes. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, c'est la dictée du public peut-être qui représente un danger parce qu'elle aurait tendance à faire évoluer votre art dans une direction qui n'est pas vraiment celle du goût vénitien.
Oui, c'est exact. Le goût a changé beaucoup. Et autrefois, dans nos ateliers, dans nos usines, l'ancien patron faisait lui-même son lustre. Et puis, les princes ou les comtes ou l'aristocrate vénitien venaient dans l'île le chercher, l'acheter et l'amenait dans son palais. Aujourd'hui, nous avons la clientèle qui exige des formes bien précises. Nous avons une clientèle américaine, une clientèle allemande, anglaise, avec des goûts et des préparations artistiques tout à fait différentes. Donc nous ne pouvons pas imposer un goût à nous, mais nous devons suivre les goûts des autres.
Je le regrette parfois parce que le goût des verriers de Murano était plus pur.
Exactement, et nous aussi. Et c'est pour ça que nous faisons des efforts pour chercher d'imposer où possible notre goût et surtout notre connaissance du métier. En plus, depuis quelques mois, dans l'île même, nous avons organisé un comité pour défendre les produits de l'île et nous avons créé une marque où il sera mis dans tous les objets faits à Murano. Donc, cette marque d'origine, nous espérons beaucoup qu'elle nous aide à faire connaître à tout le monde notre goût de Murano.
Eh bien, je crois que c'est là la solution du problème, qui est la marque d'authenticité pour la verrerie et la marque de qualité qui est celle de l'authenticité de l'esprit vénitien.
Entre tous ces vases, il y en avait 5 sortis de ses mains. Ils se distinguaient des autres comme s'ils avaient appartenu à une espèce différente. Mais lequel des 5 était le plus beau ? Les ouvriers inclinaient vers lui leur visage, tout en exposant au feu les coupes fixées au bout des cannes pour les empêcher de se refroidir. Et les flammes, claires comme celles que donnent les feuilles crépitantes du laurier, ondoyaient de l'autre côté des parafeux, semblant tenir les hommes captifs par les outils de l'art. « Oui, oui !» s'écria Stelio en voyant le maître verrier extraire avec des précautions infinies le vase de son choix. « Le sang ne ment point. Elle est digne de la Dogares Foscarina, la coupe que tu lui donnes. » Le maître verrier, tenant la tige de la coupe entre le pouce et l'index, souriait devant l'actrice, le visage éclairé par cette chaude louange. Son air de subtilité et de sagacité faisait penser au petit renard d'or qui court sur la queue du coq dans les armoiries de Murano. Ses paupières, rougies par le reflet violent, battait sur son regard tourné vers l'œuvre fragile qui brillait encore dans sa main avant de partir. Et ses doigts caressants et toute son attitude révélaient la faculté héréditaire de sentir la difficile beauté des lignes simples et des fines colorations. Elle était comme une de ces fleurs miraculeuses qui éclosent sur des arbustes maigres et tordus, la coupe tenue par l'homme voûté qui en était le créateur. Très belle en vérité, cette coupe, et mystérieuse comme les choses naturelles, conservant dans sa concavité la vie du souffle humain, rivalisant par sa transparence avec les eaux et les cieux, pareille en sa frange violette aux méduses qui flottent sur les mers, simple, pure, sans autre ornement que cette frange marine, sans autre membre que son pied, sa tige et sa lèvre. Et pourquoi elle était si belle, personne n'aurait pu le dire, ni en un mot, ni en mille. Et son prix était nul ou incalculable, selon la qualité de l'œil qui la contemplait. Gabriele D'Annunzio.